Le processus d'approfondissement ou de transformation liée à l'exercice de la méditation. Comporte trois aspects importants. D'une part, l'éthique. Nous ne pouvons pas devenir sage et rester un coquin ou une coquine. Il y a un certain effort à faire au niveau éthique. On a pris les préceptes lorsqu'on a débuté la retraite. Et dans notre vie, c'est un aspect de la méditation. L'autre chose, c'est la pratique, apprendre à être assis en silence, mais pas seulement. Apprendre à cultiver la présence au quotidien, se souvenir d'être là. C'est une toute petite chose qui est énorme. Être sur pilote automatique et tout d'un coup se souvenir, ah ouais, mais je suis là. Ça change tout. Et le troisième aspect, c'est la compréhension. Comment nous lisons le monde, comment nous lisons l'expérience humaine. Quel regard nous portons sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Et nous ne pouvons pas changer le réel. La vie est faite des 10 000 joies et des 10 000 peines. Mais nous pouvons changer la manière avec laquelle nous accueillons ce réel du monde intérieur et extérieur. Et c'est pour ça que nous avons des enseignements qui ne sont pas là pour être acceptés tout cru. Ils sont là pour être ressentis, écoutés, écoutés encore, retravailler et surtout vérifier. Un enseignement devient une sagesse pour autant que vous puissiez en faire quelque chose pour votre propre transformation intérieure. Ce ne sont pas des vérités en soi. C'est du vent, comme toute pensée, à moins qu'elle puisse toucher le cœur et créer une libération de cette complexité que nous avons l'habitude de créer et qui fait que la vie est difficile. Ce soir, j'aimerais vous parler des 5 obstacles. Donc, écoutez ce que je vous propose en lâchant ce qui ne fait pas sens. Et si quelque chose touche, ben, sentir, ah ouais, peut-être, pourquoi pas. Vérifiez, le Bouddha n'a jamais dit qu'il disait quelque chose à accepter sans le réaliser. Les 5 obstacles, c'est quelque chose qu'il est pas mal d'aborder en début de retraite parce que c'est ce que nous vivons tous. quelquefois. C'est d'une part la somnolence ou la léthargie, la torpeur, qui peut être physique, je tombe, ou mentale, ça rêvasse, tranquille. Le Bouddha a appelé ça le nirvana du pauvre, parce que c'est assez agréable. Le contraire, c'est l'agitation. L'agitation, c'est un mental ou un corps qui ne supporte pas d'être là, qui va à gauche, à droite, qui construit des trucs qui ont des fois ni queue ni tête. Quelquefois, c'est lié au remords et puis ça revient sans arrêt. Et il est impossible d'être là. Le mental est envahissant. Il y a le désir que nous pouvons remarquer, hein, le désir de que la cloche sonne, le désir d'être ailleurs, le désir d'avoir une tasse de thé, le désir de bouger. Cette énergie du désir qui peut devenir extrêmement puissante. Et alors, nous ne pouvons pas être là, nous sommes dans l'attente de quelque chose. Ou alors l'aversion, lorsque l'expérience est douloureuse, que ce soit physiquement ou psychiquement, il y a un contact désagréable à travers les sens. Ça peut être une odeur, un son, une sensation physique, le dos, le genou. Quelquefois, c'est l'agitation. Alors ça, c'est la totale, l'aversion pour l'agitation. Et nous pouvons sentir ce mouvement de rejet. Je ne veux pas. Ça m'agace, ça m'irrite, ça fait mal, j'en ai marre. Et le dernier des obstacles, c'est le doute. Ça n'est pas si simple de s'arrêter. Le moi n'a pas l'habitude. Il aime meubler, agir, bouger, s'engager, faire. Et puis tout d'un coup, on lui dit, eh ben stop, mon doudounet. Alors il essaye parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui est peut-être bon à explorer. Mais comme ça marche mal, qu'il y a ces obstacles qui sont là, que j'aimerais tellement avoir un corps tranquille, un mental apaisé, un cœur ouvert à tout le monde, et puis c'est juste pas ça qui se passe. Alors je doute. Je doute de moi-même, de mes compétences. Je doute du chemin, de ce qu'on nous propose là. J'aurais mieux fait d'aller faire. Je doute de l'enseignant, puis d'abord machin qui sait, ou machine. Et puis ce bouddhisme, finalement, il y a bien d'autres choses sur la terre. Le doute. Je vais vous lire une longue parole du Majjhima Nikaya sur les obstacles. Bon, moi, j'y vois rien. Ouais. Merci. Comment contemple-t-on les phénomènes mentaux? On les contemple au niveau des cinq obstacles. Voici. Si le désir sensoriel est présent en soi, on sait. Le désir sensoriel est présent en moi. S'il n'est pas présent en soi, on sait. Le désir sensoriel n'est pas présent en moi. Et on sait comment ce désir sensoriel non apparu peut apparaître et comment, quand il est apparu, il peut être éliminé et comment éviter à l'avenir l'apparition du désir sensoriel éliminé. Et puis, si la négativité, l'aversion est présente en soi, on sait. La négativité est présente en moi. Si l'aversion n'est pas présente en soi, on sait, l'aversion n'est pas présente en moi. Et on sait comment l'aversion non apparue peut apparaître et comment l'aversion apparue peut être éliminée et comment éviter à l'avenir l'apparition de la négativité éliminée. J'emploie l'un ou l'autre. Si l'agitation et le remords sont présents en soi, on sait l'agitation et le remords sont présents en moi. Si l'agitation et le remords ne sont pas présents en soi, on sait l'agitation et le remords ne sont pas présents en moi. Et on sait comment l'agitation et le remords non apparus peuvent apparaître. Et comment l'agitation et le remords apparus peuvent disparaître, être éliminés. Et comment éviter à l'avenir l'apparition de l'agitation et du remords éliminés. Si la somnolence et la léthargie sont présents en moi, on sait la somnolence et la léthargie sont présentes en moi. Si la somnolence et la léthargie ne sont pas présentes en moi, on sait. La somnolence et la léthargie ne sont pas présentes en moi. Et on sait comment la somnolence et la léthargie non apparues peuvent apparaître et comment la somnolence et la léthargie apparues peuvent être éliminées et comment éviter à l'avenir l'apparition de la somnolence et de la léthargie éliminée. Si le doute est présent en soi, on sait, le doute est présent en moi. Si le doute n'est pas présent en soi, on sait, le doute n'est pas présent en moi. Et on sait comment le doute non apparu peut apparaître et comment le doute apparu peut être éliminé, disparaître. Et comment éviter à l'avenir l'apparition du doute éliminé. Ainsi, pour ce qui concerne les obstacles, on demeure contemplant les obstacles intérieurement ou on demeure contemplant les obstacles extérieurement ou on demeure contemplant les obstacles à la fois intérieurement et extérieurement. On demeure contemplant l'impermanence des obstacles. On demeure contemplant leur apparition, leur disparition, et contemplant à la fois la nature d'apparition et de disparition des obstacles. Ou encore, il y a l'attention au fait qu'il y a des obstacles dans la simple mesure nécessaire à une connaissance pure et à une attention soutenue. Et alors, nous demeurons indépendants, ne s'attachant à rien au monde. C'est toujours long, les suttas, mais c'est bon parce que quand un obstacle est apparu, le problème, c'est que nous identifions. Nous croyons que c'est moi, à moi, le mien, qu'il y a un problème quelque part, qu'il faudrait, que pourquoi. Et d'entendre que c'est une énergie universelle, qui n'appartient à personne, qui émerge parfois, qui a un temps de vie et qui passe. C'est ainsi que la sagesse grandit. Et dans ce texte, ce qui est intéressant à explorer, c'est comment éviter à l'avenir. Parce que, étonnamment, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui cherche à avoir les obstacles. C'est quelque chose que nous cherchons tous à éliminer. Et ça ouvre sur l'effort sage. Qu'est-ce que c'est que l'effort sage? Si nous observons bien, il y a quatre efforts. C'est celui qui fait que lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, nous essayons de maintenir cette absence. Et lorsque l'obstacle est apparu, nous cherchons comment faire pour qu'il disparaisse, parce qu'il est désagréable. Et quand il y a une absence d'obstacle, qu'il y a un facteur de l'éveil, quelque chose de bénéfique, nous allons chercher à maintenir cette qualité bénéfique. Et si elle est absente, nous allons chercher comment la faire se manifester. C'est ce que nous faisons avec la présence. Lorsque nous revenons à l'instant, les choses telles qu'elles sont, c'est cet effort sage pour faire se manifester ce qui n'était pas là. Et lorsque nous sommes bien présents, ben jamais personne n'est venu se plaindre. Oh, tu sais, je suis toujours présente. Quoique, quand la présence s'installe, il y a un moment où c'est presque fatigant, on n'a pas l'habitude. On aimerait bien que ça s'arrête et ça ne s'arrête pas. Et il y a une autre sorte d'effort, c'est le non-effort. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience ou la présence. C'est cette ouverture de conscience à tout ce qui émerge et passe. C'est une ouverture pleine d'équanimité. Qui puise ses compétences dans la compréhension de ce qu'est le qui suis-je, ce qu'est le monde. Le monde est impermanent, il est duel, il comporte l'agréable et le désagréable, le bien et le mal. Et la libération n'est pas une bonne expérience, ça n'est pas un bon karma. C'est cette ouverture. Alors s'il y a du bon karma, waouh, j'apprécie. Mais je ne vais pas faire ce geste-là, qui fait qu'une fois que ça aura disparu, oh, ça y est, c'est plus là. Non, je me réjouis quand c'est là. Et quand ça disparaît, il y a cette curiosité, cette ouverture. Et puis maintenant, quoi? Et puis maintenant, un obstacle. Alors, comment éviter? Parce que le moi, il a tellement envie d'éviter. Il a tellement envie d'être toujours en harmonie, toujours heureux. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Comment faire pour que nous soyons vraiment heureux? Non pas dans cette saisie qui crée une tension palpable, même lorsque nous sommes heureux. La première chose avec les obstacles, c'est de les reconnaître, les nommer. Le doute a une autre couleur que l'aversion. Le désir va des fois avec l'aversion, mais c'est quand même un peu différent, hein? Plutôt désir, plutôt aversion. La somnolence ou la paresse ou la complaisance. Remarquez, ah ouais, c'est celui-là maintenant. Et l'agitation, c'est pas si simple de la laisser être consciemment, parce qu'elle nous chope. Mais c'est possible. Je m'intéresse. C'est comment cette agitation mentale? Ça va dans tous les sens. C'est vrai, objectivement, c'est désagréable. Donc, nous reconnaissons l'obstacle, nous le nommons. Et comme nous sommes en retraite, que nous savons que la cloche va sonner, ça ne va pas durer quand même trop longtemps, nous pouvons essayer de vraiment l'accepter, que ça dure à jamais. Plutôt que d'être vaguement, ok, c'est horrible, et ben tant pis, ça dure à jamais. Et cette acceptation, sentez bien ce qui se passe lorsque nous nous approchons de cette acceptation parce que quelque chose se retourne. Et au lieu de nous mettre à contre-courant de cette impermanence du monde, quelque chose comprend. Comprend, ça veut dire qu'il prend avec. Et alors nous comprenons que ce qu'on appelle Mara, ces obstacles qui sont d'abord des obstacles à la concentration, mais dans nos vies, des énergies beaucoup plus puissantes qui maintiennent des schémas de souffrance difficiles à dépasser. Mara, nous commençons à pouvoir reconnaître la valeur spirituelle de Mara, de l'obstacle. Et nous commençons à nous rendre compte que l'expérience douloureuse est juste notre sagesse qui s'est déguisée pour nous permettre de grandir. C'est un des moyens. Reconnaître l'obstacle et puis travailler avec. Comment? C'est difficile, hein? C'est difficile. Je vous raconte juste une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 jours. Je vais complètement déchoir dans votre opinion. Je suis très, très mauvaise en informatique. Et puis, franchement, j'essayais de prendre des billets. Je vais aller voir une amie nonne à Maravati, j'ai déjà pris des billets sur EasyJet pour une copine. Je me suis trompée 2 fois. Pour finir, j'ai payé les billets 2 fois. Pour les faire récupérer, c'était possible, mais ça coûtait 124 francs, c'est-à-dire 3 fois plus que le prix du billet. Bref, je me suis tout gourée. Puis après, il fallait un truc État. Ou ESTA, c'est un machin pour aller en Angleterre. Il faut aller sur un site internet. Puis je m'étais déjà fait arnaquer une semaine avant. Ils ont dû me couper ma carte, ma corner card, bref. Puis je vais pour faire ce truc, et puis ça ne marche pas. Et puis pour finir, il me semblait que j'étais arrivée, puis ils me disent « donnez votre carte ». Alors je donne mon numéro de carte. Et puis après, je vois que ça me coûte 120 francs, alors que ma copine m'avait dit que ça coûtait 13 francs. m'a dit, ça y est, je me suis de nouveau fait arnaquer. Alors, je téléphone à la corner card qui me dit, ah ouais, ça c'est de l'arnaque complète. Il faut de nouveau couper votre corner card. Non. Et puis là, j'ai eu un truc. Je me suis dit, bon, alors maintenant, ma vieille, soit c'est le suicide, soit c'est la bombe H. Qu'est-ce que tu choisis? Mais j'en pouvais plus. J'ai téléphoné à une copine, à une autre copine, à une autre copine pour me plaindre amèrement de ce monde incroyable dans lequel on vivait. Puis j'hésitais entre le Rhône et puis péter tout dans ma maison. Alors je rigolais un petit peu, mais pas vraiment. Hein. C'est puissant, les qui les a sont puissants. Donc respect, parce que c'est ça qui nous met au défi. L'autre moyen d'éviter, ou en tout cas de travailler avec, par rapport à la somnolence et par rapport à la douleur physique, c'est de se mettre debout. C'est difficile de vraiment dormir quand on est debout. Mettez-vous debout. Pas si simple parce qu'on a l'impression qu'être assis, c'est bien. Je fais bien ma part si je suis assise. Si je me lève, je suis toute seule, debout. Ils sont tous assis. N'hésitez pas. Mettez-vous debout. Vous ne fuyez rien. Vous posez un acte sage. Et vous pouvez sentir ce sens du moi. Quand je suis toute seule, debout, avec tous des gens assis, je ne fais plus partie du groupe. Mais c'est bon. Toujours aller à la rencontre, s'exposer à rencontrer ce qui nous fait un peu peur et voir comment c'est le chemin. Vous pouvez conscientiser l'impermanence, vraiment conscientiser l'impermanence. C'est comme ça maintenant, mais ça n'est pas comme ça dans d'autres conditions, dans d'autres situations. C'est comme ça pour moi, peut-être pour certains autres dans la salle, mais sûrement pas pour tout le monde. L'impermanence, c'est aussi ça. C'est que c'est une fois celui-ci, une fois celui-là. Une fois celle-ci, une fois celle-là. Et puis quand c'est l'autre, ben, je suis pleine de compassion, c'est mal fait. Mais quand c'est moi, waouh, mal au genou, j'en peux plus, moi. Moi, j'en peux plus, moi. Un bombage au suicide. Nous avons des moyens habiles, la compassion aussi. L'obstacle est douloureux. Et je peux vraiment dire, je suis sensible à ma peine. Je me prends dans les bras, je suis bonne pour moi qui est mal, qui suis confuse, qui suis pas dans la cible, qui arrive pas, ils arrivent tous moi pas. On se compare, c'est douloureux. Et de venir avec la compassion, l'ouverture du cœur, la bonté pour soi-même, c'est essentiel pour pouvoir faire le plein de qualités bienveillantes, de tendresse, de douceur. Nous pouvons rester avec cette qualité compassionnée. Je suis vraiment sensible à ma peine, ça fait vraiment mal. T'es une pauvre doudounette. Ma pauvre doudounette, ça fait du bien. Le refuge est un excellent outil. Nous n'en avons pas parlé. Je n'ai pas pris de parole de refuge. J'en prendrai une ce soir. Prendre refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, dans le Sangha, dans ce qui est plus vaste que moi. En Dieu. Si vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour prendre refuge en Dieu. C'est l'univers, c'est l'infini, c'est ce qui me contient. Et des fois, j'en peux plus, ben je prends refuge. On peut prendre refuge quand on n'en peut plus, mais on peut aussi prendre refuge toujours, n'importe quand, pour manifester la conscience de la vulnérabilité du moi. Nous sommes extrêmement vulnérables. La nature humaine, c'est un miracle. Trois minutes sans respirer, on n'est plus là. Peut-être un peu plus, mais non, je crois pas, hein. Quelques degrés de moins, on n'est plus là. Et prendre refuge, c'est se référer à une cohérence qui nous échappe. Ok, moi je suis complètement vulnérable, mais je peux avoir confiance, malgré tout. C'est un lâcher-prise de ce besoin de contrôle du moi. Il essaye de contrôler ce qu'il peut. Mais il peut tellement peu, le pauvre Mimi. Alors quand il prend refuge, ben il retrouve sa plénitude de force intérieure. Et de rien. Ce rien qui permet d'être, de se sentir tout. Et puis l'autre concept qui peut aider, travail avec les obstacles, c'est de savoir que toute maladie, toute souffrance, toute douleur est un processus de purification. Dans cette loi de cause et d'effet, la loi du karma, et je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est une pensée très utile, nous naissons avec un bagage et lorsqu'il y a une douleur, une maladie ou même une douleur physique, là pendant la retraite d'hiver, pendant des années, j'avais le corps bien posé, j'avais vraiment pas mal. Puis pendant la retraite d'hiver, tout d'un coup, c'était insupportable, mais je savais pas trop pourquoi, parce que j'avais un peu mal au genou, mais franchement. Mais c'est une douleur qui devenait insupportable. Ah! Et se dire que c'est un processus de purification. La méditation nous mène toujours plus profond dans des zones où que nous avons traversé une fois, peut-être dans une vie passée ou dans celle-là, peu importe finalement. Et de nouveau, il y a ce travail à faire d'ouverture à Dukkha. Dukkha, première vérité. Il y a souffrance. Nous sommes des êtres qui traversons des moments de grande beauté, de grande joie, plénitude, mais pas seulement. Se souvenir que lorsque nous avons un défi, même dans nos vies, quand il y a quelque chose qui nous blesse profondément, ou lorsqu'il y a une perte, comprendre que ça n'est pas par hasard et que nous avons la force intérieure de faire face. C'est un processus de purification. On parle des obstacles dans cette progression. L'effort, c'est d'abord l'effort initial, où la présence est est difficile à installer. Alors ça part, je reviens, ça part, je reviens. Et plus nous le faisons avec patience et bienveillance et tranquillité, moins nous souffrons. C'est juste un jeu, ça part, je reviens. Et puis, vichara, les choses s'installent. Je peux garder la conscience. Je commence à avoir une relation à la conscience qui fait que les moyens habiles sont à disposition. Et alors, ça crée l'intérêt. L'intérêt, non pas pour ce que je veux, mais l'intérêt pour le maintenant, comme il est là. Et cette joie d'avoir confiance, même s'il y a un obstacle, il y a cette confiance qui dit oui, plutôt que de se tendre pour avoir autre chose. Parce que lorsque nous nous tendons pour avoir autre chose, il n'y a pas de problème, hein, mais ça va revenir. Parce que ça nous demande, mais fais ton boulot, ma dodone. Ouais, mince, moi j'aimerais mieux pas avoir mal au genou. Ben ouais, mais ma foi, t'as mal au genou, hein, fais ton boulot. Pitié, hein, cette joie de l'instant. Alors bien sûr, la joie de l'instant quand nous sommes bien, à ne pas éviter, surtout pas, à se rendre plein, mais aussi cette reconnaissance des moments plus délicats. Et puis Sukha, c'est une joie de la présence. Il y a comme un retournement qui fait que l'objet de conscience, l'expérience, devient une expérience. Je sais qu'elle est impermanente, pas toujours géniale, que ma foi, le moi, ben c'est un moi, il a ses compétences et ses limites. Et il n'y a plus cette espèce de tension perpétuelle pour aller vers un idéal. Il y a plutôt une tranquillité d'acceptation des choses comme elles sont là. Et alors ça donne une sorte d'amplitude, de simplicité, de paix. Et le dernier aspect, c'est l'équanimité, qui est en même temps une qualité du cœur. Je peux accueillir les grandes joies, celles des autres aussi, sans jalousie, sans comparaison, vraiment accueillir la joie. Et je peux aussi être en compassion lorsque c'est difficile. Et alors, il y a une sorte de quiétude du cœur. C'est une sorte de lâcher prise du monde des perceptions. Nous ne sommes plus victimes du monde des perceptions qui changent toujours. En même temps, je vois et je suis toute proche. Je suis spacieuse et intime. Et c'est ce qu'on appelle l'équanimité. Je vous lis une petite parole d'Ajahn Tejaniya. N'oubliez pas, l'objet n'est pas vraiment important. L'esprit qui observe et qui travaille l'objet pour être présent est la chose vraiment importante. Si l'observation est faite avec une bonne attitude, une ouverture du cœur, un côté objectif, tout objet est le bon objet. Avez-vous la bonne attitude? Voilà encore quelque chose que nous pouvons questionner lorsqu'un obstacle est présent. Est-ce que j'ai la bonne attitude ou bien est-ce que je rejette? La sagesse nous dit ayez confiance dans les choses telles qu'elles sont. Rejeter la souffrance n'est pas une solution. Ça peut être une stratégie, ça l'est souvent, et ça ne nous empêche pas de voir que je fuis, que je meuble, que je contrôle. C'est ok, c'est pas que ce soit mal, mais c'est pas ce qui va nous amener à la fin de la souffrance. C'est une manière d'arranger nos vies pour survivre. Mais le Bouddha nous a dit, il n'y a pas besoin. Vous pouvez viser plus haut ou plus bas. Je ne sais pas si c'est plus haut ou plus bas. Derrière ces obstacles, il y a les trois poisons. En français, c'est les trois A. L'attachement, l'aversion et l'aveuglement. Et quelqu'un demandait à Ajahn Chah, mais moi j'arrive bien à avoir l'attachement, j'arrive bien à avoir l'aversion, mais j'arrive pas à avoir l'aveuglement. Ajahn Chah lui a dit, tu chevauches un cheval et tu demandes où il est. Lorsqu'il y a aversion, lorsqu'il y a attachement, forcément qu'il y a aveuglement. Et si nous sentons bien l'expérience, il y a une tension du corps. Parce qu'il n'y a pas cette confiance dans les choses telles qu'elles sont. Alors je crée la séparation parce que je suis là, et puis je vais être ici. Ou bien je suis comme ça, puis je voudrais être comme ci. Et bien sentir cette distance que nous mettons. Et ça fait mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. C'est ce qu'on fait sans arrêt, souvent. Mais ça fait mal. Et un esprit cultivé va naturellement vers la lumière. Si vous sentez, ah oh ouais, ça fait mal. Et vérifiez votre ton, hein? Intérêt. Oh ben ouais, ça fait mal. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vais finir avec deux petites paroles. Je ne sais pas si elles vont très bien ensemble, mais on verra. ne pas accepter, c'est toujours Tejaniya, c'est un maître birman. Ne pas accepter les obstacles va seulement les renforcer. Les obstacles empêchent vos progrès en méditation et vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Ils vous empêchent aussi de trouver la vraie paix et la liberté. Ne méprisez pas les obstacles. Ils vont se moquer de vous. Puis la dernière, toujours Tejaniya. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour se concentrer. La concentration grandit naturellement avec la pratique. Notre objectif, c'est d'être de plus en plus présent. Plus votre pleine conscience est continue, plus l'esprit devient fin et réceptif. Ce n'est pas tout à fait vrai, il faut faire quand même un effort pour se concentrer. Mais disons que la pleine conscience va de pair avec la concentration. Et quand je questionne est-ce que je suis là, il y a cette... j'aime pas le mot concentration, il y a cette... quelqu'un avait dit un super mot une fois, maintenant je ne le trouve plus. En anglais c'est recollection. On s'assemble, c'est comme si on se rassemble. Alors, je vous propose qu'on prenne un petit moment en silence.
Thank you.